Être ou ne pas être Xavier Dupont de Ligonnès, la question ne se pose plus ce midi après toute une soirée et une matinée d'interrogations. L'homme arrêté à Glasgow, dont on disait que les empreintes digitales correspondaient à celles du père de famille nantais, en fuite depuis 8 ans, n'a finalement rien à voir avec lui. Les tests ADN ont parlé. Xavier Dupont de Ligonnès, dont la femme et les 4 enfants avaient été enterrés sous sa terrasse en avril 2011, n'avait jamais été localisé. Un homme habitant à Limay, dans les Yvelines et en Écosse, avait été repéré par la police qui a perquisitionné dans la nuit à son domicile où les empreintes finalement ne matchent pas. Pour ses voisins d'ailleurs, ça ne pouvait pas être lui, nous les entendrons. Alors comment expliquer cet emballement médiatique sur une affaire, il est vrai, hors norme? On en parle notamment avec notre spécialiste police-justice Corinne Audouin. Dans ce journal également, l'offensive turque qui se poursuit en Syrie contre les Kurdes. Le président Erdogan répète qu'il ira jusqu'au bout. Le typhon Agibis qui se dirige vers Tokyo, précédé de pluies diluvienne et de vent extrêmement violent. En sport, le premier homme sous la barre des 2 heures au marathon, le Kenyan Kipchoge, a réussi son pari ce matin à Vienne, mais dans des conditions très particulières, son record ne sera pas homologué. Et puis un concert unique d'Iggy Pop en direct ce soir sur France Inter, c'est le conseil culture de ce week-end. Enfin, la météo Mossad dans une grande moitié nord.
France Inter.
C'était déjà un fait divers hors norme. 8 ans après, c'est un nouvel épisode abracadabrantesque qui tient en haleine, qui a tenu en haleine tous les médias de France depuis hier soir. Tout avait commencé par une information du Parisien annonçant l'arrestation à Glasgow de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme dont la femme et les 4 enfants avaient été retrouvés enterrés sous sa terrasse, sous la terrasse de leur maison de Nantes. C'était en 2011. Depuis ce jour, il était en fuite et malgré de nombreux signalements, n'avait jamais pu être localisé jusqu'à ce qu'on pensait être hier l'épilogue de cette affaire, l'arrestation à Glasgow par la police écossaise d'un voyageur parti de Roissy-Charles de Gaulle et dont les empreintes digitales, disait-on, correspondaient à celles du fugitif ce matin. Patatras, changement de ton. Plus personne n'était sûr de rien. On parlait de correspondance partielle entre les empreintes d'un homme d'ailleurs beaucoup plus grand et plus âgé que Xavier Dupont de Ligonnès. Les vérifications sont en cours, indiquait tout à l'heure encore le procureur de Nantes, Pierre Sénès. Des enquêteurs étaient partis en Écosse où les prélèvements ADN ont finalement parlé et permis de conclure définitivement cet épisode d'un point de vue judiciaire. En tout cas, du point de vue des médias, c'est autre chose. Corinne Audouin, comment expliquer cet emballement provoqué, c'est important de le préciser, par l'annonce que les empreintes digitales avaient matché, ce qui ne pouvait laisser au départ aucun doute. Alors,
on va remonter un petit peu le fil des événements, Yves, parce que je pense que nos auditeurs sont un petit peu perdus.
Comme nous.
Tout commence hier soir, peu avant 21h, vous l'avez dit, une alerte du Parisien qui annonce Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow. À France Inter, comme dans la plupart des médias, on cherche bien sûr à vérifier cette information et très vite, plusieurs très bonnes sources du côté de l'enquête nous confirment d'abord qu'il y a eu un appel anonyme qui les a mis sur la piste de cet homme et qu'ensuite ses empreintes digitales prélevées en Écosse à son arrivée donc de Roissy en avion correspondent avec celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Or les empreintes, c'est quelque chose de très fiable, beaucoup plus que l'apparence physique qui peut changer en 8 ans. On évoque de la chirurgie esthétique, etc. Bref, avec l'information de l'empreinte digitale, on est hier quasiment certain qu'il s'agit bien du fugitif le plus recherché de France. Et ce qu'on apprend seulement ce matin, c'est que la correspondance avec ces empreintes digitales est en fait partielle. Et ça, ça change tout. Écoutez les explications de l'avocate et criminaliste Corinne Herman.
Le minimum, c'est qu'il y ait 12 points de comparaison. Quand on a 12 points de comparaison entre 2 empreintes, on considère qu'on est déjà sur un très haut degré de ressemblance et on peut considérer qu'on a peu de chances d'en avoir une deuxième sur la Terre identique. On a une chance sur 64 milliards de retrouver la même sur la Terre. Si on a peu de points de comparaison, dans ce cas-là, je dirais que les experts sont sérieux, ils nous diront il y a quelques points de comparaison, mais il faut plus de matériel. 5 points de comparaison, ça sera insuffisant pour identifier une empreinte.
On apprend donc dès ce matin que la correspondance est partielle. Les doutes sont de plus en plus forts sur l'identité de la personne arrêtée. Il y a les témoignages du voisin de l'homme arrêté, de l'homme qui habitait à Limay,
on
qui
va les disent, entendre.
Mais on le connaît depuis 30 ans, voisins. Ça ne peut pas être lui. Ce matin, on apprend également que les empreintes relevées au domicile donc de ce monsieur Alimé ne sont pas celles de Xavier Dupont-Ligonnès. Et voilà, confirmation finalement, l'ADN réalisé en extrême urgence par les enquêteurs français ce matin le confirme, cet homme n'est pas Xavier Dupont-Ligonnès.
Alors il y a aussi d'autres éléments, Corinne, qui auraient dû inspirer la méfiance.
Oui, le procureur de Nantes, vous l'avez cité, Pierre Sénès, avait appelé à la prudence. Il parlait hier de suspicion sur les empreintes. Mais, c'est important cette information, eh bien, elle est tombée à 0h26 via une dépêche AFP, presque 4 heures après la première alerte. Le mot « suspicion » est un peu vague. Le procureur ne précise pas que les empreintes sont partielles, ce qui aurait pu, à ce moment-là, nous mettre la puce à l'oreille. Et puis, les témoignages recueillis à Limay ont donc renforcé ce doute initial. Et les mêmes sources qui étaient très affirmatives hier soir, eh bien, rétropédalent ce matin. À l'origine, il y a sans doute eu une mauvaise transmission d'informations entre la police écossaise et la police française, ce qui a généré une forme d'emballement collectif, à la fois des professionnels et de la presse. Ça arrive finalement sur ce genre d'affaires où il y a beaucoup d'attentes et de pression. Il s'était passé à peu près la même chose sur la relance de l'affaire Grégory en juin 2017, où tout était parti d'un ADN sur un livre de messe déclenchant des arrestations spectaculaires. On se retrouve un petit peu dans le cadre de ce qu'on appelle les faits divers qui rendent fous. On espère finalement que ça puisse servir de leçon à tout le monde.
Alors, ce qui ne collait pas également dans cette affirmation, raison pour laquelle sur France Inter, nous avons depuis ce matin gardé le conditionnel, hein, ce qui ne collait pas, c'est notamment le témoignage des voisins, vous l'avez dit, les voisins de cet homme arrêté à Glasgow, donc, et dont le domicile à Limay, dans les Yvelines, a été perquisitionné cette nuit. Il habitait ici depuis 30 ans. Pour ses voisins qu'il connaissent de longue date, il ne pouvait pas être Xavier Dupont de Ligonnès, auquel d'ailleurs il ne ressemble absolument pas. Hugo Charpentier est allé à leur rencontre.
Dans ce quartier pavillonnaire paisible, il y a ceux qui tombent des nues en apprenant la nouvelle.
Le truc de fou.
Et ceux qui doutent très fortement. Victor habite juste en face de la maison qui a été perquisitionnée cette nuit et ce père de famille est perplexe.
La personne qui habitait ici ne ressemble pas du tout à la personne qu'on a vue à la télé hier soir. Donc on est un peu étonné, un peu sur le cul quoi.
Autre témoignage plus troublant encore, celui de Jacques, cet homme qui se dit proche de Guy Joao, dont le nom figure sur le passeport du suspect interpellé en Écosse. Pour Jacques, cet homme ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès.
Ça fait 30 ans qu'on se connaît. On était à son mariage en Écosse. Je vous dis, avant-hier soir, on mangeait ensemble.
Vous entendez ça? Mais non, mais arrêtez.
Il a une maison en Écosse. Il vit là-bas avec son épouse. Et puis, régulièrement, il revient en France. Sa femme l'attendait à Glasgow. Et donc, on a appelé. Et elle a dit, bah oui, voilà, ils l'ont arrêté. J'ai pas plus de nouvelles, rien. Elle était farée, quoi.
Pendant la perquisition, cette nuit, Jacques et sa femme ont même tenté de convaincre les enquêteurs qu'ils se trompaient de cible. Ici, à Limay, beaucoup d'habitants retiennent leur souffle en attendant une réponse définitive.
Voilà, maintenant la réponse, ils l'ont eue, donc ce n'était pas, ils avaient raison, ses voisins, ce n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Qui peut expliquer aussi ce bug retentissant, c'est sans doute le côté hors norme de cette affaire. On l'a dit, une affaire digne des plus effrayants thrillers, une femme et 4 enfants tués, un père de famille en cavale, une cavale de plus de 8 ans, ce qui est exceptionnel. C'est une affaire emblématique qui reste dans les mémoires, comme l'expliquait ce matin sur France Inter Anne-Sophie Martin, journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires, auteur d'un livre sur cette affaire.
Je crois que c'est la dernière grande énigme criminelle, l'affaire non résolue et qui a fait énormément parler d'elle. Je pense que c'est aussi une question de milieu, c'est-à-dire que c'est un milieu bourgeois, discret, très inséré.
Famille versaillaise, il est de Versailles
d'origine. Voilà, d'origine versaillaise, noble, Agnès dans une famille très bourgeoise. Et donc, c'est vrai que c'est pas dans ces milieux qu'on découvre des faits divers sordides.
Hein. Vous n'avez jamais cru, parce qu'on a parlé aussi de suicide, on s'est dit, mais il s'est flingué. Mmh. Et vous n'y avez jamais cru.
Alors au début, j'y croyais. C'est-à-dire, ouais, au début, moi je me disais, quand j'ai commencé à enquêter pour France 2, j'ai cru qu'il s'était peut-être suicidé, ça semblait assez vraisemblable. Et puis, dans les familicides, c'est-à-dire quand toute une famille est décimée, en général, l'auteur, qui est souvent le père de famille dans ces cas-là, dans 95-98% des cas, se suicide.
Mais il y a des exceptions, Jean-Claude Roman est une autre exception.
Mais Jean-Claude Roman a essayé de se suicider, il n'a pas réussi. Enfin, bon. Voilà, tandis que lui, il disparaissait dans la nature, si vous voulez. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi la différence de cette affaire par rapport aux autres.
Voilà, Anne-Sophie Martin, auteure du livre Le Disparu, paru aux éditions Ring. Elle était ce matin l'invitée donc d'Éric Delvaux et Patricia Martin. En politique, le député et conseiller régional LREM Thierry Solaire, suspendu par son groupe au conseil régional d'Île-de-France, le député de Boulogne, ancien porte-parole de François Fillon, a été mis en examen pour fraude fiscale, détournement de fonds publics et trafic d'influence. Après le Châtelet, l'Assemblée nationale pour les militants du mouvement Extinction Rébellion, après avoir occupé pendant 5 jours la place du Châtelet à Paris, ils sont aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, très encadrés par les forces de l'ordre, au dernier jour de leur mobilisation pour la planète. Ils sont quelques centaines assis sur la chaussée pour réclamer des mesures plus ambitieuses contre le réchauffement climatique. Et puis une trentaine de militants d'attaque s'en sont pris ce matin à la façade du siège de Total dans le cadre d'une journée de mobilisation contre l'impunité des multinationales. Et avant l'ouverture lundi à Genève d'une session de négociation de l'ONU sur un projet de traité, les activistes vêtus de combinaisons blanches ont aspergé de peinture noire le siège du groupe pétrolier dans le quartier d'affaires de la Défense en collant des affiches, déployant des banderoles totales pollue. Lors d'une action d'une vingtaine de minutes, 6 personnes ont été interpellées, dont l'un des porte-parole d'attaque. Ils sont en garde à vue dans plusieurs commissariats des Hauts-de-Seine.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
En Syrie, au 4e jour de l'offensive turque dans le nord-est du pays, plusieurs villages auraient été repris aux combattants kurdes qui font état de lourdes pertes, plus de 70 morts, sans compter les civils soumis au bombardement de l'aviation turque. Le président Erdogan, qui reste sourd aux critiques et menaces des Occidentaux, répète qu'il mènera à son terme cette opération visant à créer tout au long de sa frontière une zone de sécurité, une frontière turco-syrienne où vous vous trouvez, Mathieu Mondoloni. Les forces turques disent avoir pris la ville de Ras el Ain.
Oui, c'est ce que le ministre de la Défense turque a expliqué il y a quelques heures maintenant, mais ça a été immédiatement démenti par les forces kurdes également dans un communiqué envoyé aux journalistes. Ce qu'on peut vous dire, c'est, on le voit juste devant nous, c'est que les bombardements se poursuivent en ce moment tout autour de Ras el Ain. On est à quelques centaines de mètres seulement. On voit et on entend, comme vous, peut-être les frappes aériennes, les tirs d'artillerie qui ne cessent pas depuis ce matin, provoquant d'immenses colonnes de fumée noire qui s'échappent de plusieurs quartiers ici. L'objectif de ces bombardements, c'est de couper les axes logistique des combattants kurdes, d'isoler dans la ville ceux que les Turcs appellent des terroristes. D'ailleurs, des combats rapprochés se déroulent déjà dans certaines rues. Nous avons réussi tout à l'heure à pénétrer dans la partie turque de cette ville et nous avons pu voir des militaires lourdement armés. Nous avons surtout entendu de nombreux tirs d'armes automatiques juste à côté de la frontière, matérialisés ici par une simple voie de chemin de fer et quelques barbelés. La ville est déserte, les rideaux des magasins sont tirés. La grande majorité de la population a été évacuée, une population essentiellement kurde. D'ailleurs, si ces deux villes ont des noms différents, arabes et turcs, de part et d'autre de la voie de chemin de fer, en kurde, c'est une seule et même ville qui s'appelle Serekanié.
Mathieu Mondoloni sur la frontière turco-syrienne. À Hong Kong, des week-ends qui se suivent et se ressemblent, les militants du mouvement pro-démocratie ont bien sûr prévu de manifester à nouveau dans les rues de l'ex-colonie britannique, quitte à braver les interdictions. Un mouvement qui ne faiblit pas, mais qui montre, après 4 mois de manifestation et surtout après les derniers affrontements violents avec la police, un mouvement qui montre un début de division. À Hong Kong, notre envoyé spécial Dominique André.
Kowloon et les nouveaux territoires sont le fief des manifestants les plus radicaux. Dans ces quartiers populaires de Hong Kong, la suite du mouvement fait l'objet de discussions et de débats aigus. Il n'y a pas de véritable chef, mais des groupes ou des individus seuls, comme ce jeune homme qui a commis des violences, il le dit. Après 4 mois, le jeune employé au visage épuisé a décidé de lutter différemment. Il veut que le mouvement garde le soutien de la population.
On continuera d'aller manifester. Ceux qui sont en première ligne essaieront d'augmenter la pression sur le gouvernement pour ne pas les laisser gagner du terrain. Avec les manifestants pacifiques, on fera des manifestations comme par exemple des chaînes humaines dans la rue pour attirer l'attention du plus grand nombre.
La division du mouvement, c'est le risque, analyse Jean-Pierre Cabestan, professeur de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong.
Il y a une frange qui devient de plus en plus radicale, qui s'en est pris un certain nombre d'équipements, d'institutions, notamment le métro, et puis une partie du mouvement qui s'inquiète de cette dérive et aimerait en revenir à une stratégie beaucoup plus pacifique, ou tout au moins de désobéissance civile, mais sans attaque contre les personnes, notamment les policiers.
Des rassemblements non violents sont annoncés ici et là. Les jeunes espèrent toujours un soutien international. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
Au Japon, plus de 3 millions de personnes invitées à évacuer dans le centre et l'est du pays où le typhon Agibis a été précédé de pluies diluviennes et de vents violents. Il a déjà provoqué de nombreuses perturbations dans les transports et des coupures d'électricité, faisant même une première victime. Jérôme Val, le pays est en alerte pluie maximale.
Oui, depuis plusieurs heures maintenant, ce sont les mêmes images qui défilent sur la NHK, la télévision publique japonaise. Des fleuves en crue, d'énormes vagues qui se fracassent sur les digues, des quartiers entiers inondés. Vous l'avez rappelé, 3 200 000 personnes ont été invitées à quitter leur logement. Plus de 13 000 habitants dont la maison avait été endommagée par un précédent typhon il y a un mois et demi se sont abrités dans des refuges. Alors le cœur d'Agibis approche de Tokyo et son énorme agglomération alors que la nuit est tombée. Les pluies déjà abondantes depuis ce matin ont doublé d'intensité. On attend des records de précipitations dans les prochaines heures. 0,5 mètre d'eau sur Tokyo, encore plus dans d'autres villes alentours. L'agence japonaise de météorologie annonce pour les prochaines minutes des rafales à plus de 210 km heure. Il n'y a plus aucun transport dans la capitale. Des touristes étrangers coincés dans les métros ont été pris en charge et hébergés dans un centre provisoire. Et pour couronner le tout, Yves, nous avons ressenti tout à l'heure un tremblement de terre d'une magnitude de 5,7. Inutile de vous préciser que ça rajoute à l'angoissante nuit qui se présente dans un pays désormais placé en alerte maximale.
Voilà, accrochez-vous bien Jérôme, le typhon Agibis, c'est à cause de lui que le match de rugby Angleterre-France prévu ce samedi a été annulé, comme le sera peut-être demain la rencontre Japon-Écosse. En Californie, ce sont les incendies qui menacent depuis hier tout le sud et la région de Los Angeles où 2 personnes ont trouvé la mort. 100 000 personnes ont dû être évacuées, 1 millier de pompiers aidés de Canadair ont été engagés, on parle de 300 hectares qui partent en fumée toutes les heures. En sport, un exploit qui n'en est peut-être pas un, tout en étant vraiment une grande performance. C'est le jour des informations douteuses, décidément. Le Kenyan Kipchoge est passé tout à l'heure sous la barre symbolique des 2 heures au marathon. 1h59min40s précisément. 20 petites secondes pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Il est le premier homme à le faire, mais il faut voir dans quelles conditions. Pas du tout les conditions normales d'une course normale. Aidé par une armée de lièvres sur un parcours le plus droit possible dans les rues de Vienne, le champion olympique du marathon était aussi précédé d'une voiture lui indiquant le rythme de son record qui ne sera donc pas homologué. Bon, pour autant, il l'a fait, il a vraiment couru. Tous les amateurs de marathon mesureront sa performance comme le fait Dominique Chauvelier, 4 fois champion de France. Il est juste un peu nostalgique au téléphone d'Amaya Cazenave.
Moi, c'était artisanal et là, c'était vraiment le monde business, comme on voit en football, comme on voit partout aussi. Alors, je vais être un peu vulgaire. Faut pas que je passe pour un vieux con, entre guillemets, en disant de mon époque, c'était mieux, c'était plus pur, etc. Non, c'est la génération, allez, on va dire le coureur 2.0 ou 3.0. Voilà, on est un monde digital, etc. Si ça peut attirer une autre population, tant mieux. C'est autrement. Voilà, à mon époque, c'était bien. Maintenant, c'est autrement.
Voilà, 1h59min40s, avis aux amateurs. Le Conseil Culture du week-end, c'est ce soir sur France Inter, un concert de Liguane, plus connu sous le nom d'Iggy Pop, le parrain du punk, en direct de la Gaîté Lyrique à Paris de 21h à 22h et que Mathieu Culeron a rencontré. She wants to be
a James Bond. Pour ce concert exceptionnel, le parrain du punk a imposé un programme strict où son dernier disque prendra beaucoup de place.
Oui, on va jouer intégralement l'album et sans doute au moins une chanson de Zombie Birdah au sein de mes vieux disques.
Free est un album singulier dans la discographie de Liguane, un album sombre, poétique, avec une forte présence du jazz.
L'idée était de tisser un lien entre ces approches musicales très différentes et de faire en sorte que ça reste comme un dialogue, que ce soit fluide en utilisant ma voix. J'espère avoir réussi ça. La plupart des gens le pensent, d'autres non.
Iggy Pop, qui s'est forgé une réputation sur scène à la fin des années 60 en chantant entièrement nu et en se scarifiant parfois avec des tessons de bouteille, ce soir l'atmosphère sera très différente, quelque chose de plus posé.
Oui, je peux faire les deux et plein d'autres trucs aussi. Par exemple, je peux jouer un zombie. J'ai toujours été un type totalement déglingué, pour vous dire la vérité.
Iggy Pop en concert à la Gaîté Lyrique, l'occasion de voir le dernier survivant de la Sainte Trinité du rock après la disparition de Lou Reed et de David Bowie.
Voilà, concert d'Iggy Pop ce soir en direct sur France Inter. Dans un instant, la météo, mais d'abord... Ne pas croire que la sécheresse est terminée. Les pluies de ces derniers jours sont trompeuses. Le niveau actuel des nappes phréatiques est toujours inférieur à celui de l'année dernière. C'est ce que souligne dans son dernier bilan le Bureau des recherches géologiques et minières. Plus grave encore, le niveau le plus bas cette année serait plus sévère que le niveau de 2017, année référence en matière de sécheresse. La France manque de réserves et la situation ne va pas en s'améliorant, comme l'explique Laurence Gourcy, hydrogéologue au BRGM, au micro de Thibault Lefebvre.
Les secteurs qui aujourd'hui ont des problématiques sont les secteurs qui ont été mal rechargés l'année dernière. On continue sur la même tendance à laquelle on avait commencé un peu l'été, c'est-à-dire des secteurs, notamment le nord de la vallée du Rhône, le sud de la Loire, donc une région qu'on appelle le Berry, et puis toujours quelques points localisés plutôt dans le Grand Est. Les prochains mois sont vraiment très attendus puisque c'est la période de recharge qui va donc débuter. Donc on peut retrouver des niveaux complètement corrects si les conditions de recharge sont bonnes, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de pluie. Les conséquences, si la recharge n'est pas bonne cette année, on va démarrer l'année suivante avec des niveaux très bas et donc il y aura des restrictions d'eau obligatoires très tôt dans l'année en fait.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
La météo, c'est avec Jean-Michel Golinski.
Cet après-midi, dans des températures de 17 degrés près de la Manche, de 20 à 23 dans l'intérieur de la Bretagne, du centre Val-de-Loire au bassin parisien sur la Provence, de 25 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Corse, et de 26 à 29 dans le quart sud-ouest. C'est un ciel chargé, ponctuellement pluvieux, qui va survoler les côtes de la Manche. Dans le Languedoc, le vent marin vers 70 km à l'heure va maintenir une ambiance maussade. Sur le reste du pays, ciel assez bien dégagé, de l'est du Rhône à la Corse, plus variable ailleurs, avec un risque d'averses orageuses, partie du sud-ouest en matinée et gagnant en cours d'après-midi vers la Bourgogne, Champagne-Ardenne et la frontière allemande. Demain, à nouveau un temps gris et faiblement pluvieux près de la Manche, qui aura tendance cette fois-ci à gagner vers la Loire en cours de journée. Le golfe du Lion va conserver une ambiance maussade avec un vent marin très turbulent. Et puis entre les deux, temps variable avec possiblement une ondée du Poitou-Charentes au nord-est et un soleil plus vaillant pour les régions méridionales.